Si vous voulez accéder à la transcription complète, créer des fichiers médias et bien plus encore, visitez lingia.com.
Commençons par l'épisode d'aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast pour apprenants de français de niveau intermédiaire.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, mais parfois un peu sombre, la vie quotidienne lors des pandémies passées. Oui, on plonge dans l'histoire pour voir comment les gens vivaient pendant ces périodes difficiles.
C'est drôle, non? On pensait que notre expérience récente était unique, très moderne, mais en fait, l'histoire regorge de leçons. On va voir qu'il y a des similitudes surprenantes et aussi des différences très intéressantes. Qui est prêt pour un voyage dans le temps?
Préparez-vous à découvrir comment nos ancêtres géraient le confinement, la peur et l'incertitude bien avant nous. C'est une page d'histoire qui résonne encore aujourd'hui.
Exactement. Et je pense que comprendre le passé nous aide à mieux comprendre le présent, même quand c'est un sujet un peu difficile.
Tout à fait. Commençons par le concept de confinement. Même si le mot est plus moderne, l'idée de s'isoler n'est pas nouvelle du tout. Comment les gens faisaient-ils pour gérer leur vie quotidienne, le travail, l'école, les loisirs, quand une maladie se propageait?
Prenez la peste noire au XIVe siècle. C'était une catastrophe. Les villes fermaient souvent leurs portes pour essayer d'arrêter la maladie. C'était comme un confinement total pour toute la ville.
Oui, c'était vraiment radical. Et en plus, les maisons des malades étaient marquées, parfois avec une croix rouge, pour que personne n'entre ou ne sorte. Imaginez vivre dans une ville en quarantaine, sans internet ni téléphone pour communiquer avec l'extérieur.
C'est inimaginable pour nous, n'est-ce pas? Pas de réseaux sociaux, pas de visioconférence avec la famille ou les amis. Les gens étaient vraiment coupés du monde extérieur. L'isolement devait être très lourd.
Ou pensons à la grippe espagnole en 1918. C'était bien plus proche de nous dans le temps. Là aussi, les gens étaient encouragés à rester chez eux. Les parcs, les théâtres, les écoles, les églises, tout fermait. C'est très similaire à ce que nous avons vécu récemment, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Les mesures étaient très similaires. Mais encore une fois, la communication était la grande différence. Comment est-ce que les familles éloignées restaient en contact? Il n'y avait pas d'e-mail, pas de SMS, pas d'appel vidéo. On dirait que l'isolement était beaucoup plus profond, plus radical, plus difficile à supporter.
Exactement. Il fallait compter sur les lettres qui prenaient beaucoup de temps ou sur le bouche à oreille. Cette difficulté à communiquer nous amène à notre deuxième point. Comment les gens se protégeaient-ils et quelles étaient leurs croyances face à ces maladies inconnues?
C'est une excellente question. Alors, quelles étaient les mesures sanitaires de l'époque? On n'avait pas de gel hydroalcoolique ni de vaccin, c'est sûr. Les méthodes étaient souvent très différentes, basées sur la connaissance de l'époque.
Non, pas du tout. Mais ils avaient leurs propres méthodes, parfois surprenantes pour nous aujourd'hui. Par exemple, pendant la peste noire, on utilisait des herbes aromatiques pour purifier l'air. On pensait que l'air était malade.
C'est ça. Les médecins portaient ces masques étranges en forme d'oiseau avec un long bec. Ce bec était rempli d'herbes parfumées, comme la menthe ou la lavande, pour ne pas respirer le mauvais air ou les miasmes qui, selon eux, causaient la maladie.
Et le lavage des mains ou même du corps entier était parfois considéré comme dangereux dans certaines périodes. On pensait que l'eau ouvrait les pores de la peau et permettait aux maladies d'entrer. L'hygiène n'était pas la même, ni la compréhension des germes.
C'est incroyable de voir la progression de la connaissance médicale. À l'époque, on blâmait souvent les mauvaises odeurs, les miasmes, comme tu l'as dit, ou même la colère divine pour expliquer les épidémies. Pas de virus invisible, c'était une autre façon de penser.
Pourtant, avec la grippe espagnole, les choses avaient un peu évolué. Les masques en tissu étaient assez courants dans les lieux publics, un peu comme les nôtres. C'était une mesure de protection qui ressemblait déjà plus à ce que nous connaissons.
Oui, on commençait à comprendre un peu mieux la transmission, même si le virus lui-même était encore un mystère. C'est fascinant de voir ces premières tentatives de contrôle de la maladie.
Absolument. Ces croyances et ces mesures influençaient non seulement la médecine, mais aussi la vie économique et sociale des communautés. Et c'est justement notre prochain point.
C'est un excellent aspect. Au-delà de la santé, comment ces pandémies affectaient-elles le travail, le commerce et la vie en communauté? On imagine bien que ça ne pouvait pas être facile.
Pas du tout. Les marchés fermaient, les transports s'arrêtaient, l'économie était souvent dévastée. On ne pouvait pas télétravailler à l'époque, bien sûr. Donc beaucoup de gens perdaient leurs revenus très rapidement et la pauvreté augmentait de façon dramatique.
Oui, et les récoltes n'étaient pas faites. Les usines s'arrêtaient. La vie économique était paralysée. Il y avait aussi la peur d'être infecté, ce qui empêchait les gens de se rassembler pour travailler ou acheter des choses.
Et pourtant, au milieu de ces difficultés, on voit souvent des histoires de grande solidarité. Des voisins qui aidaient d'autres voisins, des communautés qui se serraient les coudes pour survivre. Moins de commerce, mais plus d'entraide locale.
C'est une belle leçon, non ? Face à l'adversité et à la peur, l'esprit humain trouve toujours des moyens de s'adapter et de s'entraider. L'histoire est pleine de ces exemples, des petites actions d'aide mutuelle aux initiatives plus grandes pour soutenir les malades et les familles.
Exactement. Il y avait des repas partagés, des soins donnés aux malades par des bénévoles. Ces moments terribles révélaient aussi le meilleur de l'humanité.
C'est très inspirant de voir comment les gens arrivaient à trouver de la force et de l'espoir même dans les moments les plus sombres.
Il est temps de résumer ce que nous avons appris aujourd'hui. C'était un voyage intéressant, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. C'était plein de découvertes et de réflexions.
Pour résumer, nous avons vu que même si les époques et les connaissances scientifiques changent, certains aspects de la vie quotidienne pendant les pandémies restent étonnamment similaires. Le besoin d'isolement, la recherche de protection et l'impact sur l'économie et la solidarité au sein des communautés.
Et ça montre bien que l'histoire, même la plus sombre, peut nous offrir des perspectives précieuses sur notre propre expérience et sur la résilience humaine. C'est une histoire de survie et d'adaptation continue.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode. Nous espérons que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles perspectives sur l'histoire.
N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou des idées d'épisodes. Nous aimons beaucoup vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Au revoir.
Visitez langia.com pour accéder à la transcription complète, aux flashcards multimédia et à bien d'autres choses encore.